Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
On a attendu une fois la gifle, on ne va pas attendre la deuxième.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After continue jusqu'à minuit. Nous sommes en direct sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'After, After-Foot, bien sûr, l'After Première Radio de France le soir, l'After, l'émission qui vous garantit une liberté d'expression totale au 32-16. Liberté d'expression au cas aussi. Walid Acharchour, bien sûr, qui est là. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut Flo, salut à tous.
Et Florent Gautreau, évidemment. Salut Florent.
Salut à tous.
On va analyser la victoire de Lyon à Nantes, les gars. Le match s'est terminé il y a quelques instants, 3 buts à 1 pour les Lyonnais qui ont renversé le match littéralement. On parlera également des autres rencontres du jour, pourquoi pas de Brest qui a battu Metz, mais en tremblant, 4-3 de Monaco, toujours là, face à Rennes. Monaco gagne 1-0, Rennes qui est pas bien. Et puis les autres matchs du jour également au programme. Et puis on a également des matchs internationaux ce soir. La Juve face à la Fiorentina et Porto face à Guimarães. Porto qui est mené par Guimarães 2-1, petite surprise dans le championnat portugais, a confirmé. Il reste une grosse demi-heure à jouer. Et puis en Italie, c'est terminé. La Juve a battu la Fiorentina 1-0, 32-16 pour débattre avec nous, supporters nantais, supporters lyonnais, supporters des autres clubs qui ont joué aujourd'hui. Nous sommes également là sur Direct Studio, la messagerie d'RMC qui est disponible pour vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages. Voilà, les messages pour Kevin Diaz notamment, apparemment apprécié sur Direct Studio. Les gars, les trois points, c'est parti.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Florent, de quoi est-ce que tu veux parler ?
Bah, de Lyon quand même, et de ce match victoire méritée finalement, même si bizarrement jusqu'à la 60e minute, je ne voyais pas trop comment ils allaient s'en sortir, mais au global, la meilleure équipe a gagné. Il y a du banc et il y a du caractère. Donc il y a quand même une grosse différence avec ce qui s'est passé en première partie de saison. Ensuite, le match de l'après-midi, la Monaco-Rennes, il est important parce que ça touche un peu définitivement les espoirs rennais, et puis surtout ça a fait au classement une sorte de scission. Il y a vraiment les premiers au quatrième d'un côté, jusque voilà, et puis de la place 5 à 10, il y a un écart de, je sais pas, 5-6 points entre les deux groupes. Donc c'est une défaite rennaise importante à bien des égards. On pourrait y revenir sans doute. Là aussi sur un problème d'état d'esprit. Puis le troisième point, c'est plus global, c'est peut-être un truc qu'on n'aura pas le temps de faire ce soir, sur les défenses et les défenseurs. Je trouve qu'on défend de plus en plus mal en Ligue 1. C'est-à-dire qu'à la limite, on a encore des bons joueurs, tu vois, on a encore des bons attaquants, la Lacazette, Ben Yedder, Aubameyang, Jonathan David, je sais pas quoi, même ce soir Moustapha Mohamed, que je considère comme un très bon attaquant. Et puis défensivement, même ce qui s'est passé avec Brest dans le match contre Metz, ce qui s'est passé ce soir côté Nantais, même côté Lyonnais, Kalita Tchar pris sans cesse, très souvent dans son dos, je trouve qu'on défend de plus en plus mal, et la défense c'est un geste technique.
Walid, tes trois points.
Moi, mon premier point, c'est Lyon renversant, parce que contrairement à Flo, moi j'ai trouvé que la première mi-temps de l'Olympique Lyonnais a été très décevante et qu'ils ont concédé pas mal d'occasions. Heureusement que Lopez et les montants ont sauvé l'Olympique Lyonnais. Mon deuxième point, c'est dans ce très beau match de Ligue 1, on a eu deux très beaux matchs de Ligue 1 aujourd'hui, c'est ce Brest-Metz et ce Rennes et ce Monaco-Rennes, où Monaco va gagner ce match-là, même si attention, je trouve que Rennes a eu des situations et des occasions, mais Monaco, la première mi-temps de Monaco a suffi. Et le troisième point, c'est Brest, qui nous a fait un match très très bizarre, où sur la première heure de jeu, ils nous ont montré pourquoi ils étaient tout en haut du classement. Et sur la fin de match, ils se sont un petit peu relâchés de façon très très étonnante. Donc voilà mes trois points. Et puis un petit dernier point aussi. C'est comme vient de le dire Flo. C'est en fait aujourd'hui on a 6 journées de la fin. Et en fait au final on se rend compte que il y a une vraie cassure pour des enjeux bien différents. De 2 à 4, on a Lille, Brest et Monaco qui vont jouer le barrage ou la Ligue des Champions. On a de 5 à 10 même avec 10. L'Olympique Lyonnais qui vont jouer les places européennes, donc Ligue Europa et Conference League. Et on a 3 équipes qui pour moi vont jouer le barrage Ligue 1, Ligue 2. Enfin, vont jouer pour pas aller au barrage, c'est Lorient, Nantes et Le Havre. Parce que pour moi, Montpellier, Toulouse et Strasbourg se sont donné beaucoup d'air.
4 points d'avance pour Montpellier et sur Le Havre, 5 points pour Strasbourg et Toulouse. Oui, c'est vrai qu'il y a...
Là, on a pour moi on a un sprint lancé.
Une journée qui a clarifié les choses.
Une journée qui est 5 points entre Lille 4e et Nice 5e.
Ouais, c'est beaucoup, on se rend compte que Nice a dégringolé.
À 6 journées de la fin. Donc pour moi, il y a vraiment... Des choses qui
sont arrivées. Un championnat à 4 étages, voilà. Si je puis me permettre.
Oui. Sachant
que le premier étage, c'est un peu le ventre mou. Tu as le rez-de-chaussée, c'est en bas. Là, les ceux qui vont
jouer, c'est 5 étages en fait.
5 étages.
Parce qu'il y en a un qui est réservé PSG, là. L'étage VIP. C'est le toit.
Alors, c'est 6 étages.
Le rooftop, c'est le PSG, c'est le rooftop.
Metz et Clermont, on les considère.
Ouais, c'est un étage.
On les considère à dégager.
C'est
le sous-sol. Clermont, hier, on y a cru contre le PSG, mais ça.
Si on considère que Clermont et Metz, c'est la cave, on peut considérer que le rez-de-chaussée va de Lorient au Havre,
c'est ça. Le rez-de-chaussée, c'est ceux qui veulent éviter les barrages.
Voilà.
De Ligue 1,
le premier étage va de Montpellier à Toulouse.
Oui.
Là, ils jouent plus rien. Premier étage, vue sur les arbres, les pigeons, tout ça, c'est un peu dégueu.
Deuxième étage, Lyon.
Deuxième étage, Lyon.
Rennes, Marseille.
Jusqu'à Lens.
Ouais.
Jusqu'à Nice.
Cinquième.
Troisième étage, Lille, Monaco, Brest.
Ouais. Et rooftop.
Quatrième étage, rooftop, PSG.
Vu sur la Tour Eiffel.
C'est avenue de la Bourdonnée.
On est d'accord.
Faites vos jeux maintenant pour la fin de saison.
Et c'est vrai que dans l'étage, maintenant je suis paumé, je pense que ça a été au deuxième. Au deuxième où il y a beaucoup d'équipes, il y a aussi
Le deuxième, c'est le ventre mou là.
Le deuxième, c'est pas Nice.
Nice,
Lens, Rennes, Marseille, Reims.
Exactement.
T'as des équipes. Bon, t'as Reims, qui est une bonne surprise, mais t'as beaucoup de déçus là-dedans.
Ah oui.
T'as Lyon, qui est une déception. T'as Marseille, qui est une grosse déception. T'as Rennes, qui voulait aller plus haut, enfin, qui veut aller plus haut. T'as Nice, qui a cru longtemps.
Qui était beaucoup plus haut.
On pouvait le craindre, mais qui joue la Ligue des Champions. Donc,
Et ça avance très, très peu, ces équipes-là, hormis Lyon, parce que Lyon, on l'a pas dit ce soir. Mais reviennent à un point de Rennes et à un point de Marseille.
Enfin, grosse affaire.
Si on nous avait dit ça il y a 2 mois.
Oui, alors que tout le monde les voyait en Ligue 2, effectivement. Enfin, il y a un peu plus de 2 mois maintenant.
C'est un match très très paradoxal qui montre quand même que dans le foot, on en a parlé la dernière fois, au niveau individuel, j'ai parlé de ça sur les entraîneurs et la confiance qu'ils arrivaient à insuffler. Tu sais, t'arrives à transformer une équipe parfois sur la confiance. D'ailleurs, à ce titre, à l'inverse, dans le camp nantais, je dirais que ce qui se passe avec Abline, que je connais bien, est typique aussi de la confiance qu'un coach peut te donner en te remettant dans le jeu. Mais ce sera un autre sujet. Sur Lyon, c'est honnêtement, effectivement, t'as totalement raison dans ce que t'as dit. Ils font pas un bon match. Ils sont pas bien dans le match, mais malgré tout, ils sont meilleurs, mais ils n'y arrivent pas. Et là, la confiance et le banc de touche. Moi, j'insiste sur le banc de touche. Tu fais rentrer ce Fofana, qui fait toujours des différences. Et maintenant, Cherki, tu as vu l'attitude même du banc.
Très bonne entrée,
sur les buts lyonnais. En fait, si tu veux, ils ont retrouvé ce qu'il n'y avait plus du tout, c'est-à-dire l'unité d'un vestiaire. Donc, les joueurs du banc sont décisifs, l'atmosphère est bonne. Là, ils ont trouvé, Sage a trouvé vraiment
Alors, à propos de Sage, parce qu'on se faisait la réflexion avec
lui. Il a trouvé le.
Bon, évidemment, match sans spectateur, ça nous rappelle le Covid.
Ouais.
Et alors, le seul avantage, c'est qu'on entend ce qui se passe sur le terrain et sur les bancs.
Oui.
Donc là, Pierre Sage porte parfaitement bien son nom, parce que je crois qu'on l'a pas entendu une fois.
Oui, très calme. Ouais.
À l'inverse d'Antoine Comboiré.
Ah, on a eu un Comboiré chaud.
Mais Comboiré, en fait.
Mais je sais pas s'ils l'ont dit, l'attaché de presse lui a dit, mais en fait, c'est un huis clos, on entend tout. Hein.
Mais ça, il passe son temps à pourrir les arbitres.
Ouais. C'est même pire que ça, au bout d'un moment.
Bah, il s'est embrouillé
avec
Jamel Alioui, qui est l'adjoint de Pierre Sage.
C'est incroyable comment il peut être calme dans la vie.
Oui.
Et complètement dingo, en fait.
Il ferme sa bouche, lui.
Ouais. Et va devoir pourri, à quoi elle sert.
À quoi elle sert, là-bas.
Bon, cela dit, il y a peut-être un carton rouge sur la casette.
Il peut être discutable.
C'est suite à ça qu'il a pété un
peu. Non, mais avant peut-être. Ça, il était déjà dénoué.
Pareil, sur cette action, c'est là où il n'y a plus. Enfin, je vais sortir un énorme poncif, mais je pense qu'il faut quand même le dire. Il n'y a plus aucun respect quand t'entends ça. T'as raison. C'est intéressant, finalement, de voir ça sans public.
Bah oui.
Parce que tu as un coach éducateur, entre guillemets, qui pourrit tout le monde pendant tout le match, qui va passer son temps, je te l'annonce en direct, là, en Mondovision, à pourrir les décisions d'arbitrage qui ont tué le match qu'il avait dans les mains. Ça va être ça, sa thèse et sa défense, à Comboiré. Donc, un vieux truc de Ligue 1. Or, le match, je veux dire, Pierre Sage, tu vois, il dit rien. Alors que, à un moment donné, tu te demandes comment son équipe va ne serait-ce qu'égaliser. Il fait ses changements, il fait sa tactique, il fait jouer son équipe. Je veux dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ce que fait Comboiré? Si ce n'est à donner un exemple totalement pourri de ce qu'ont fait les bancs. Et j'ai entendu les bancs de touche gueuler, hurler encore comme pas possible.
Sage, pendant tout le match, a dit, ça se jouera là-haut. Si techniquement on est meilleur là-haut, ça va passer. Soyez patient. Il a juste dit une phrase qui moi, m'a fait sourire. quand Malik Fofana marque le deuxième, il dit voilà, c'est ça faire la différence. Parce que Nouama juste avant avait fait quand même une première heure de jeu très très compliquée et il souriait. Mais c'est vrai que le huis clos c'est dégueulasse et ça nous rappelle le Covid. Mais s'il y a un aspect intéressant, c'est ce que les coachs peuvent apporter, les bancs. Il y a quand même quelques indiscrétions qui sont parfois intéressantes.
Alors j'avoue, c'est un peu voyeuriste parce Moi, j'avoue franchement, j'ai monté le son.
Oui, moi aussi,
j'écoutais attentivement. Et d'ailleurs, c'est même un peu limite. Le diffuseur, évidemment, les gars commentent le match, ce qui est logique, mais limite, t'as envie qu'il se taise à un moment pour que tu puisses entendre.
Non, moi, je l'avais en version sans commentaire là-haut, mais c'est vrai qu'on entendait énormément. Et tu parlais de l'état d'esprit Flo, notamment lyonnais, sur la fin de match, les 5-6 dernières minutes, tu sens même Lacazette, Tolisso, les mecs parlaient à Douillet Galetachar, ils parlaient à Jack O'Brien, en anglais, les gars, on reste calme, on va le gagner ce match-là, sur Ryan Cherki, sur Malik Fofana. On sent qu'il y a un truc qui se passe du côté lyonnais. Alors, on n'a pas vu un très, très grand match de la part de Lyon, mais dans l'état d'esprit, les mecs, ils sont à bloc et ils veulent vraiment faire quelque chose sur cette fin de saison, parce qu'on l'oublie, mais si l'Olympique Lyonnais termine le championnat 7e, ils seront obligatoirement en Europe.
Si Paris gagne la Coupe.
Mais comme ils jouent Paris. Comme ils jouent Paris.
Ils y sont d'un côté ou de l'autre.
Ouais, ils y sont d'un côté ou de l'autre, donc ils seront en Europe.
Merci Walid.
Donc, vu que la finale se jouera après la dernière journée, donc il y a un truc à faire, et c'est Pierre Sage qui l'a dit contre Valenciennes. Maintenant, il y a une voie pour aller aussi en championnat, donc il faut y aller, et ce soir, c'est un résultat très important, parce que Rennes et Marseille ont perdu.
Tiens, on a Antoine au 32-16 qui est là. Salut Antoine.
Salut, bonsoir à tous les trois.
Salut Antoine.
Salut Antoine.
J'imagine qu'évidemment tu t'es content du résultat, mais c'est quand même sur la fin que Lyon est revenu.
Ouais, exactement. On va pas se mentir, on fait 70 premières minutes qui sont, je trouve, très mauvaises. Je pense que c'est peut-être les plus mauvaises de l'année 2024.
Mmh. Ouais.
Mais après, si on va aller chercher le positif, moi ce que j'ai adoré en fait, c'est l'adaptation déjà tactique. Parce qu'on n'a pas forcément parlé, mais on changeait de dispositif avec la rentrée de Cherki et de Fofana.
4-2-3-1.
Ouais, 4-2-3-1. Et je pense que c'est un dispositif sur lequel on peut essayer de capitaliser sur les prochains matchs, parce que Cherki, à la sortie, il est quand même au lancement des deux actions. Et puis aussi, on voit, mine de rien, on peut aussi remercier un peu Textor directement, parce qu'on voit qu'on se retrouve avec un effectif qui est quand même beaucoup plus complet que les 6 premiers mois. Et ça fait depuis l'année 2024 que les remplaçants font la différence. On a un effectif qui est beaucoup plus large. On n'en parle pas, mais même un Balté, quand il rentre,
tu as tout à fait raison. Balté qui était ultra mauvais.
Ouais, sur le troisième but, il dépose complètement.
Il dépose des aisés, je crois. Ouais.
Athlétiquement, il a retrouvé quelque chose.
Ouais, il a retrouvé, mais je pense qu'ils ont retrouvé de la confiance. Parce que Balté était perdu, mauvais.
Ouais.
Et moi, quand je le voyais, les gars disaient, mais Balté, il n'a rien à faire à Lyon. C'est pas ça le problème, c'est que Balde, il était tellement pas en confiance qu'il devenait mauvais.
Ah, sous Grosso, c'était
pas un très grand joueur,
là,
mais c'est un meilleur joueur que ça. Et là où t'as raison, par rapport à tout ce qu'on a dit sur l'effectif mal composé de Marseille et l'absence de banc, c'est vrai que là, regarde, le luxe entre guillemets qu'a Pierre Sage, qui se dit, je garde Cherki sur le banc, alors que c'est vrai que là, il est plutôt dans une bonne phase, il pourrait très bien prétendre une place de titulaire qu'il aura peut-être au prochain match. Il a ce Fofana qui, à mon avis, est meilleur, et il a quelque part l'aspect d'un titulaire. Bon, enfin, je crois qu'il avait un petit pépin en plus là, mais qu'il met en impact player et ça marche. Donc, quand t'as des solutions comme ça aujourd'hui en Ligue 1, c'est vrai que
les quatre qui rentrent sont décisifs.
T'as raison, ce
n'est pas le Gift Orban, Malik Fofana.
Et t'as raison de parler de Textor, parce que quelque part, on critique beaucoup et à juste titre la façon dont les effectifs sont composés en Ligue 1. Cet effectif-là, ça n'allait pas. Et il faut reconnaître que quand même, quand tu prends Matic et alors Orban, c'est à double tranchant, parce qu'il rate beaucoup, et Nouama, il a encore beaucoup de choses aussi à apprendre.
Quand on parle des recrues, c'est intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est surtout sur les fins de match et sur les rentrants que la différence se fait sur les dernières semaines, notamment. On l'avait vu à Toulouse où ils perdent 2-1 et derrière la rentrée de Cherki avait fait aussi beaucoup de bien. Parce que si on regarde, un Mangala, il est pas là aujourd'hui. Benrahma et Nouama sur la première mi-temps, je les trouve très très neutres dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent.
Benrahma,
c'est plus par la passe et par le centre sur les dernières prestations qu'il était bon, mais je trouve que dans le 1 contre 1, il a encore très timide, très timoré. De l'autre côté, Nouama.
Mais moi, Benrahma, je peux faire un truc. Benrahma, pour moi, c'est un 10.
Hein? Il joue beaucoup sur le côté.
Peut-être, mais moi, j'ai la sensation, plus je le vois jouer à Lyon, et quand le jeu implique qu'il change de position, tu as raison, c'est quelqu'un qui met des passes dans l'axe, qui arrive à faire des différences. Moi, je crois que par rapport à la composition de l'effectif tel qu'il est là, effectivement, tu as des vrais joueurs de côté, comme Nouama, même s'il y a des progrès à faire, et comme Fofana, et lui, à mon avis, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, mais il jouera plus
dans
un rôle axial.
Après, ça fait beaucoup 10, Flo, parce que les Belges te disent que Malik Fofana aime bien jouer dans l'axe, Cherki joue dans l'axe. Si tu me rajoutes Benrahma, ça fait quand même.
Ouais, mais c'est intéressant en tout cas de voir.
Jif Torban, s'il veut jouer, il va falloir qu'il joue dans l'axe parce que.
Mais non, mais c'est intéressant quand même de voir que tactiquement, il a aussi une palette à sa dispo parce qu'il commence en 4-1-4-1, tu sais,
ouais, 4-3-3, ouais.
Et en fait, il finit en 4-2-3-1 et je pense que quand même, au final, cet aspect axial, cette qualité axiale là qui manque dans le premier système a fait la diff effectivement.
Parce que le problème, c'est que sur la première mi-temps, t'es beaucoup trop esselé. T'as Tolisso et Cacré qui sont beaucoup trop loin de la Cazette. La Cazette est obligée de faire des miracles. La seule grosse occasion qu'il a en première mi-temps, il se la crée un peu tout seul. Et la Cazette, il faut le dire, il est très très performant dans la finition cette saison. Mais dans le jeu, c'est plus la Cazette qu'on a connue un peu à Arsenal ou à Lyon, capable de décrocher, d'aller sur le 6 adverse, de jouer à toi, à moi. Là, il a un peu de déchets cette saison, il a même beaucoup de déchets cette saison par rapport à son standing. Donc en fait, dans ce fameux 4-3-3, quand t'as un Lacazette qui a du mal à jouer comme avant, que Tolisso et Cacré ont du mal à se projeter, t'as un énorme no man's land entre les lignes.
T'as le trou du 10.
Et c'est pour ça que Cherki, dès qu'il est rentré, il s'est mis, et Pierre Sage le disait, notamment sur les commentaires, plus haut Cherki, plus haut Ryan, plus haut, ne redescends pas trop bas. Matic et Cacré, ils vont déjà le faire.
Bah déjà.
Et dès que tu trouvais Ryan, Cherki et Malik Fofana, là, t'avais Maitland-Niles aussi qui pouvait s'intercaler. Là, tu pouvais trouver des angles de passe, te rapprocher de la Cazette, et c'est comme ça que tu marques les buts. Même si la Cazette te met un but de chien de la casse aussi sur le premier, là, il va te le chercher, il va contrer Zézé.
Il y a quand même tactiquement un truc qui était prévisible, et je suis un peu surpris d'ailleurs que Sage, qui maîtrise ça parfaitement, change presque pas plus vite ou plus souvent. À partir du moment où t'as Matic, qui joue déjà très bas. Alors, c'est assez drôle parce que derrière, après, on l'a vu plus haut finalement. Mais il joue très bas. Effectivement, tu joues avec Tolisso et Cacré. Déjà, tu sais qu'il va te manquer un élément créatif et axial et plus haut, quoi. Et donc, il l'a après, quoi.
Ça peut être un déclic pour changer de système de jeu,
tout à fait.
Ce soir. Parce que là, Antoine, ça commence à faire.
En revanche, défensivement, j'insiste juste quand même sur Kalita Tchar.
Tu l'as trouvé si mauvais que ça,
en tout cas, ça passait. En fait, les ouvertures. Tu sais que Mostafa Mohamed, il a trois occasions quand même.
Abline aussi. Abline en première mi-temps.
Abline et Mostafa Mohamed. Et il y en a deux au moins qui passent avec des passes tranquilles dans le dos de Kalita Tchar, qui en plus, évidemment, demande le hors-jeu alors qu'il couvre de 2 mètres. Enfin, la classique. C'est à mon avis, c'est un des points. C'est un des points faibles de cette OL là.
Parce que d'habitude, sur les dernières semaines, je le trouvais quand même plutôt fiable, le Croate.
Antoine, tu veux rajouter un truc ?
Non, après, je veux dire que c'est bien, parce qu'on se rapproche, et c'est rare d'ailleurs qu'on concrétise comme ça des occasions où les deux concurrents devant perdent. Après, le calendrier qui arrive, là, on joue les 4 premiers quand même, d'affilée. Mmh. Donc ça va quand même être compliqué de faire même 10 points, quoi. Enfin, évidemment, de faire 10 points, mais même 6 points, ce serait déjà bien, 6 points sur 12. Donc on va pas s'enflammer. Le chemin le plus rapide pour l'Europe, c'est la finale qu'on jouera le 25 mai. Donc on verra dans quel état sera le PSG à ce moment-là.
Oui, mais faut pas faire un all-in sur la finale. Hein. T'es pas favori contre le Paris Saint-Germain. Le PSG va vouloir faire au moins doubler. Donc si tu peux aller, s'il y a cette opportunité d'y aller par le championnat, faut y aller pour le championnat.
Il n'a pas tort. Ce qu'on remarque là, un peu dans le championnat à l'heure actuelle, et quand on a dit que
ça avance pas devant, Flo.
Mais la journée d'aujourd'hui clarifie les choses aussi dans ce sens que certaines équipes qui ont pu rêver reviennent à la réalité. C'est-à-dire Rennes a pu rêver, ils ont fait une grosse série, bam, ils se prennent un peu une claque. Marseille s'est dit à un moment donné, on va repartir, bim, ils se reprennent une claque, tu sais.
Oui.
Et donc tu t'aperçois que quelque part Lyon, j'ai vu ce qu'ils ont fait pendant 70 minutes, parce qu'il faut quand même revenir à ça.
Oui.
Faut pas non plus s'enflammer pour dire tu vas rencontrer les 4 premiers et tu vas aller choper la 7e place et tu vas doubler tout le monde.
Mais Flo, la finale, allez, de toute façon quoi qu'il arrive après le championnat. Donc tu sais, t'as pas à te préserver.
En fait, on essaie de déterminer le niveau de chaque équipe.
Oui.
Ça commence à se positionner un peu correctement. Est-ce que Marseille, c'est insuffisant quelque part? Ils méritent pas d'être beaucoup plus haut en ce moment. Rennes, pareil. Rennes, ils ont à chaque fois le plafond de verre au moment ils l'ont pas cassé, ils l'ont pas brisé au moment où ils pouvaient le faire. Ils l'ont encore montré aujourd'hui. Et ben Lyon, c'est pareil. Oui, Lyon est bon, mais là les moments ils ont été menés au score dans la première partie de saison, ils ne revenaient jamais dans ce cas-là. Ouais. Là, ils sont revenus, mais contre qui?
Toulouse, Metz,
Montpellier, Metz, je crois.
Montpellier, Metz, Toulouse, Montpellier Metz et Nantes.
Ouais. Comme par hasard, des équipes qui effectivement sont à leur portée.
Ouais.
Dans un instant, on continue le débat. On aura Luigi avec nous, supporter lyonnais. Je remercie Antoine et puis on parlera longuement de Nantes également avant d'évoquer les autres matchs du jour. L'after continue en direct sur RMC jusqu'à minuit.